Oui, je trouve que vous exagérez un peu, mais en même temps, non, d'abord sur les lumières, là, j'ai trouvé ça intéressant, mais moi j'avais appris aussi que les lumières, alors c'est vrai que ça a désenchanté le monde peut-être, mais c'était pour laisser venir la raison, le principe de raison, le développement de la raison. Et que la raison, ça a quand même été un grand progrès, enfin le travail de la raison, même si au XXe siècle, vous l'avez dit après, on a vu que la raison seule pouvait conduire à des catastrophes. Bon, mais surtout dans les lumières, là où je vous trouve un peu injuste, c'est que ce que moi j'avais compris dans les lumières, c'est que c'était un siècle aussi où on voulait s'opposer à la tradition, c'est-à-dire à ce qui, dans la tradition, imposait un ordre. Et notamment imposer un ordre inégal, c'est-à-dire imposer l'inégalité parmi les hommes, faisait croire que l'inégalité était quelque chose de naturel. Et de ce point de vue-là, Diderot et les autres, ils ont quand même participé à ce combat contre l'ordre et contre l'inégalité imposée au nom de la tradition et de la culture de la tradition, la royauté, etc. Donc de ce point de vue-là, voilà. Et du coup, dans ce que vous avez dit sur les villes, je vous ai trouvé un peu trop extrême par rapport à l'urbain, parce que moi je suis assez urbain. J'ai tendance à penser que les villes n'ont jamais été aussi sûres, mais je le dis vite, hein, si je compare par rapport au Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire qu'on nous a toujours dit qu'il y avait beaucoup moins de violence urbaine qu'il y a pu y en avoir tout au long de l'histoire, mais que c'est vrai qu'il y a des phénomènes, et je partage votre constat, qu'il y a des phénomènes qui doivent nous heurter, c'est-à-dire qu'on voit une société à plusieurs vitesses et qu'il y a des inégalités qui sont beaucoup plus visibles maintenant qu'il y a 20 ans, par exemple. Mais ce que je pense qu'il manque, c'est de montrer le travail énorme qu'il y a par le politique notamment, mais quand je dis le politique, c'est pas simplement les gouvernants ou les élus, hein, c'est aussi nous, pour essayer de remettre en permanence de la paix sociale et de la cohésion sociale au milieu de tout ça. Alors c'est un peu comme la montagne de Sisyphe, hein, on n'y arrive jamais, etc. Mais dans les grandes villes telles que Montpellier, moi je suis frappé par le nombre de manifestations qu'on nous prévoit, culturelles notamment, constamment. Il y a qu'à regarder la Gazette, on a 10 choses par soir, dont Michel Théron ici, qui sont en fait des choses soutenues, y compris par les pouvoirs publics, et qui ont pour fonction précisément, non pas de cacher simplement la misère, mais aussi de restaurer ce dialogue, de faire en sorte, alors parfois c'est pour cacher la misère peut-être, j'en sais rien, ou pour faire que les gens jouissent dans leur coin, soient tranquilles et rentrent après chez eux pour s'enfermer, surveillés par les caméras. Mais je suis pas sûr, enfin, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de gens qui essayent d'être des médiateurs, des ponts, des relais.
Oui, alors bon, j'apprécie beaucoup les nuances, hein, que vous apportez dans tout ce que j'ai dit, et vous avez raison, quand on écrit, on est souvent pris par la formule, hein, et on risque d'être injuste. Donc je suis d'accord que il faut apporter des nuances. S'agissant des villes, sont-elles plus sûres maintenant qu'autrefois? Je remarque en tout cas qu'on fait tout pour exclure les contacts. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Tenez, vous savez, les bornes publiques, j'aime beaucoup c'est précis. On a mis au milieu une espèce de petite barrière pour empêcher les SDF de dormir sur les bancs. Mais ça empêche aussi les amoureux de se serrer l'un contre l'autre, vous voyez, hein. Donc voilà, moi il me semble que c'est assez barbare ça, non? Voilà, donc voilà, on voit pas les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, on ne voit pas séparés justement par la fameuse barrière. Alors sur les lumières, il y a une tragédie des Lumières. Vous avez raison de dire que c'était un siècle de rationalisme, hein. Bon, mais ce siècle qui a mis la raison très haut, hein, qu'est-ce qu'il a connu à la fin? Il a connu Sade et la terreur. hein. Et la terreur a été initiée par Robespierre et Saint-Just. Robespierre voulait que l'on rendît un culte à la déesse raison, hein, à la déesse raison. Donc, vous avez parlé de la liberté, de l'égalité, donc un élan très généreux de 89, hein, qui donne 4 ans plus tard, 93, hein, où les têtes tombées comme les ardoises des toits par un jour de grand vent. Vous voyez, comme disait un témoin du temps. Lisez là-dessus le roman d'Anatole France, Les dieux ont soif. Les dieux ont soif de sang, sur la terreur révolutionnaire. Et alors, à la fin de ce siècle, vous avez ce que Malraux appelle le triangle noir du siècle des Lumières, c'est-à-dire Laclos, Sade et Goya, vous voyez, hein. Donc, c'est ça la tragédie des Lumières, hein, c'est que on a abouti, avec Laclos, cette destruction dont j'ai parlé en commençant, Sade, c'est vrai, c'est l'animalité qui ressurgit en pleine civilisation. Quant à Goya, il y a une gravure célèbre de Goya où on voit un personnage sur une table avec les deux coudes endormi sur une table avec les coudes sur la table, et on voit de sa tête sortir des chauves-souris, vous voyez, hein. Et donc la légende de la gravure, c'est le sommeil de la raison engendre des monstres, vous voyez. Hein. Donc il faut réfléchir à ce que Adorno et Horkheimer ont appelé la dialectique de la raison. Hein. Trop de rationalité peut faire basculer d'un seul coup à l'opposé. J'ai parlé de l'énantiodromie tout à l'heure. Prenez la tragédie de l'Allemagne. C'était quoi? L'Allemagne, c'était un peuple extrêmement cultivé. C'était un peuple où il y avait de grands philosophes, de grands musiciens, de grands artistes, de grands savants. C'était le peuple de Herr Professor, Herr Doctor, etc. Un peuple de haute culture, hein. Un peuple d'une très haute civilisation. Alors comment et par quel paradoxe a-t-on pu avoir Auschwitz, par exemple, vous voyez, hein? Comment ça a pu se faire, ça, hein? Alors, l'Allemagne, le côté apollinien, c'est-à-dire le côté lumineux de l'Allemagne, c'est Goethe. Goethe, on l'appelait l'Olympien, hein? Donc, c'est-à-dire, l'Olympe, c'était l'endroit lumineux, hein, de la Grèce où trônait Zeus. Et on dit que les dernières paroles de Goethe avant de mourir auraient été « Mehr Licht », c'est-à-dire « plus de lumière, plus de lumière ». Alors peut-être voulait-il simplement qu'on ouvrit la fenêtre parce que la pièce était trop obscure, mais on y a vu là un symbole, hein, dans ce « plus de lumière, hein ». Alors, est-ce qu'on peut poser, mais là je sais pas, bien sûr c'est provocant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre Goethe et Auschwitz, c'est-à-dire, alors que ce sont le contraire l'un de l'autre, hein, mais à trop, comment dire, être angélique, hein, à trop nier le démoniaque dans l'homme, eh bien on peut favoriser la venue de ce même démoniaque, à trop le nier. Jung disait très bien, à force de nier le diable, nous avons ouvert toutes grandes les portes de l'enfer, vous voyez. Et là, il parlait d'Auschwitz, des camps de concentration, etc. Hein. Donc, le diable, il a été démoli dans la conscience occidentale. Hein. Encore, Luther lui avait jeté son encrier à la face, paraît-il, hein, mais il a été démoli. Et il est sûr que au XVIIIe siècle, on n'y croyait plus du tout au diable. Et on avait raison, effectivement, il fallait plus brûler les sorciers, bon, de ce point de vue. Mais quand même, une fois le diable disparu, Le diable étant au chômage, étant devenu un pauvre diable, hein, c'est Valérie qui le dit dans Mon Faust, hein, eh bien, il reste quand même dans l'homme ce que les Allemands appellent le démonique, ou moi je dirais du démoniaque. Hein. Et trop de rationalisme court le danger de faire l'impasse sur le côté démoniaque de l'homme, sur ce côté obscur. Hein. L'être humain, il est à la fois lumineux et obscur. Il y a ces deux aspects, mais si vous niez le démoniaque, il réapparaîtra de toutes les façons. On le trouve chez Baudelaire dans les petits poèmes en prose, par exemple. Je pense à un poème qui s'appelle Assommons les pauvres, dont je vous parlerai peut-être à une autre occasion. La plus grande ruse du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Voilà, ça c'est une phrase de Baudelaire, je crois que Nietzsche l'a reprise. Donc, il ne faut pas se faire de l'homme une image trop angélique, trop lumineuse, vous voyez. Parce qu'il y a en nous des choses assez terrifiantes, et il faut dialoguer avec elles. Hein. Jung disait qu'il faut dialoguer avec l'ombre que chacun porte en soi. Hein. Mais à nous considérer que simplement le côté lumineux, il peut en arriver des catastrophes, hein, parce qu'il y a une paranoïa de la raison, hein, effectivement.
Est-ce que c'est la raison ou simplement le fait que à chaque fois la civilisation cherche à faire triompher un point de vue, que ce soit un point de vue religieux, que ce soit un point de vue scientifique? Il me semble quand même que depuis, il y a des penseurs comme Edgar Morin qui parlent de complexité à admettre, et qu'on ne peut pas, il est difficile de faire une synthèse, d'avoir ce savoir ultime qui donnerait le sens, et heureusement, parce que finalement, un sens donné une fois pour toutes, ce serait une prison. Hein. Et est-ce que tout ne doit pas naître et mourir, y compris la pensée? Elle est amenée à... Une pensée est développée, elle est amenée à culminer, à porter ses fruits, et puis... Moi, il y a quelque chose qui me frappe, par exemple, politiquement. Ce qui a été fait à l'égard de la société, je parle du socialisme, au départ, c'est extrêmement généreux. Or, la générosité porte en elle son verre, puisqu'elle amène des gens à ne plus se prendre en charge. Hein, et est-ce qu'on n'est pas tout le temps dans quelque chose de cet ordre? Ça me fait penser au taoïsme. Hein. Dans le noir, il y a toujours un point de blanc, et puis c'est un cycle, et ça va se transformer, et y compris le noir deviendra blanc.
Oui, alors là, oui, j'ai pensé moi aussi aux sagesses extrême-orientales. Bon, il est certain que tout ce que je viens de dire concerne l'Occident. Hein. Un Orient, et spécialement dans le taoïsme ou aussi dans le bouddhisme zen au Japon, ces choses-là n'auraient pas, comment dire, autant de pertinence. Vous avez parlé du prologue de Jean et du Logos, la parole. Moi, j'ai parlé essentiellement du langage. J'ai dit que le langage était très important, vous voyez, bon... voilà. Mais dans ces sagesses-là, eh bien, le langage n'est pas valorisé. La première maxime du Tao Te Ching, c'est-à-dire le livre de la voie et de la vertu, écrit par Lao Tzu, fondateur du taoïsme, c'est la maxime suivante. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Hein. Donc, autrement dit, je pourrais m'arrêter. On lève la séance, et c'est fini, quoi. Bon, c'est certain.
Quand on, donc, le Tao, si on en parle, c'est pas le Tao, d'accord? Donc, on peut jamais en parler, mais enfin, non. on peut jamais le dire, ça ne veut pas dire que pour autant il n'existe pas et il n'est pas là, il n'est pas présent.
Oui. En fait, notre variante, c'est le Tao qu'on saurait exprimer n'est pas le Tao de toujours. Hein. On peut traduire aussi la voix vraiment voix n'est pas une voix constante, les termes vraiment termes ne sont pas des termes constants. Voilà. Oui. Donc. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais alors là, ça nous amène, on en parlera quand nous étudierons les représentations religieuses, hein. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas, hein. C'est ce que dit Créon en Antigone d'Anouilh, hein. Oui, là, il y a une royauté du silence, dit André Breton dans Nadja, hein. C'est vrai, comme...
C'est une pensée qui se situe dans un cycle, dans un mouvement, et pas dans une fixité où on dirait les choses une fois pour toutes. C'est-à-dire que tout se transforme, et quand on regarde les civilisations, elles naissent, elles meurent, c'est désolant, mais là aussi, il n'y a pas que la mort d'un individu, il y a la mort de tout, des entreprises, des civilisations, et justement parce que un sens s'épuise et qu'il faut retrouver à nouveau du sens. Et quand vous avez dit le sens est un désir de sens, moi je trouve que ça c'est formidable, c'est-à-dire que c'est là où est notre liberté. C'est-à-dire que c'est à nous de décider ce qui va faire sens. Et pour que ça marche, dans une société, il faut qu'on soit plein de gens, finalement, à faire la même proposition.
Oui.
Jusqu'à ce que ce système-là, lui-même, se détruise. Enfin, on ne peut pas en sortir. Mais il n'y a peut-être pas de quoi être pessimiste.
Oui. Oui, alors, on trouve ce que disait monsieur tout à l'heure sur le pessimisme, qu'il a fort opportunément nuancé, hein. C'est vrai, c'est vrai. J'étais obligé de forcer le trait, donc. Mais il me semble que l'homme tient debout par justement le désir qu'il a de donner du sens. Il s'effondrera si on lui dit que la vie ne signifie rien. Bon, maintenant. Ouais, voilà, oui, 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 oui. Donc, mais est-ce qu'on peut, affirmer un sens avec une certaine distance? Alors ça, puisqu'on parle de spiritualité, c'est la leçon de la Bhagavad Gita. Tenez, Elisabeth qui vient d'Inde pourrait nous informer là-dessus, hein. La Gita, la Bhagavad Gita, c'est en quelque sorte l'évangile de l'hindouisme, hein. Le sujet est le suivant, Arjuna, le héros se demande si ça sert à quelque chose de combattre, hein, depuis des siècles et des siècles que le sang coule et que les batailles ont lieu et que ça n'aboutit à rien, est-ce qu'on doit combattre, hein. Lui apparaît Krishna, hein, donc l'incarnation du Dieu, hein, et Krishna lui dit combat comme si combattre servait à quelque chose. Fais comme si. Tu dois quand même combattre. On ne te laisse pas aller au découragement. Fais comme si. En allemand, on dirait als ob, comme si. Hein. Alors, est-ce qu'on peut en faire une maxime de vie? C'est-à-dire, travaille comme si travailler servait à quelque chose. Agis comme si agir servait à quelque chose. Vous voyez, cette distance. Alors, c'est agir sans s'attacher aux fruits de l'action. Voilà. Hein, sans s'attacher aux fruits de l'action. Faire comme si, et puis, alors, fais ce que tu dois, advienne que pourra, en quelque sorte. Hein, mais agis, mais ne t'attache pas aux fruits de l'action. Dans le Zen, ça existe. C'est un terme japonais, mushotoku, ça veut dire le détachement vis-à-vis des fruits de l'action. Alors, on retrouverait, s'agissant des croyances, bon, ce sens que j'incarne, j'ai une certaine distance vis-à-vis de lui, peut-être qu'il n'existe pas, hein, et on retrouve ce que je disais tout à l'heure, ce qui n'a pas de sens a peut-être supérieur à ce qu'il y en a, vous voyez, hein. Donc faisons comme si, agissons avec distance, hein.
C'est pas parce qu'on peut pas le nommer, ce sens, qu'il n'existe pas. Moi, par exemple, il y a quelque chose qui me choque, comme un scientifique, comme Albert Jacquard, qui, au nom de la science, parle des croyances. Mais qu'est-ce qu'il autorise ? Il n'est pas plus, on peut pas, comment dire, Dieu ne se démontre pas, ni son inexistence. C'est pas de l'ordre du discours de la science. De quoi se mêle-t-il ?
Moi, je pense que quand il parle des croyances, il ne parle pas en savant, il parle un homme, un être humain, hein, voilà.
On entend quand même toujours...
Il est évident qu'on ne peut pas prouver scientifiquement la vérité d'une religion.
Au nom de la science, quand même.
Au nom de la science,
beaucoup, comme l'a fait aussi
pour être
ministre de l'Éducation nationale.
Allègre ?
Oui.
Allègre, oui.
Pour moi, c'est une hérésie de parler du religieux sur une pensée scientifique, enfin à partir d'une pensée scientifique.
Bon, écoutez, moi je crois que on en est revenu maintenant. Autrefois, on pensait qu'on pouvait prouver la vérité d'une religion au moyen d'arguments rationnels. On le pensait autrefois, au Moyen-Âge, on le pensait. C'est ce saint Thomas d'Aquin, le pensait, hein. C'est le thomisme, c'est le fond du thomisme, hein. Alors que maintenant, on en est revenu alors à ce que disait bien avant saint Augustin, c'est-à-dire l'évidence du cœur, hein. Dieu est une évidence du cœur, on ne peut pas le prouver, prouver l'existence rationnellement. Bon, ça c'est impossible, hein. Par exemple, si on dit tout a une cause, donc le tout a une cause, cette cause est Dieu, automatiquement viendra après l'objection, mais si tout a une cause, quelle est la cause de Dieu? Alors le théologien va dire, Dieu est cause de lui-même, causa sui. Alors on répondra, oui, mais la cause est toujours distincte de l'effet, on ne peut jamais l'y découvrir, etc. Donc on ne peut plus avoir une théologie rationnelle à la façon de saint Thomas d'Aquin, hein. Ce n'est pas possible. De même, prouver Dieu par les merveilles de la création, comme c'était un argument, hein. Non, ça ne tient pas, parce que bon, il y a du mal dans le monde, hein, qui détruit tout finalisme, hein. Vous savez, même Voltaire disait le monde est une horloge et je ne puis penser que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Donc une espèce d'intelligence créatrice des choses générales, mais en fait il y a du mal dans le monde, des tâches horribles dans le monde dont on ne voit pas la finalité, vous voyez. Je vais prendre un exemple, tenez. La douleur physique. Certains disent que la douleur a une finalité qui est l'avertissement. Par exemple, j'approche ma main du feu, je me brûle, aussitôt, la sensation me fait retirer ma main pour éviter qu'elle ne soit brûlée, vous voyez. Bon, il y a un côté finalité de la douleur en tant qu'avertissement. Eh bien, cela ne tient pas. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas proportionnalité entre ce que la douleur est censée prévenir et justement ce qui se produit effectivement. Par exemple, si vous arrachez un ongle à quelqu'un, c'est très douloureux, mais ça ne met pas du tout en péril sa vie. À l'inverse, des maladies très graves comme le cancer sont au départ indolores. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas la proportionnalité entre ce que la douleur est censée prévenir et puis la lésion de l'organisme. Donc on peut pas. Alors là, on pourrait le développer longuement, mais je crois que si un savant comme Jacquard parle de la religion, il ne peut pas parler en savant, parce que certains l'ont fait encore, peut-être Teilhard de Chardin qui l'avait fait. Bon, moi non. Moi pour moi c'est une évidence du cœur. Hein. Mais par contre, il y a des choses. Mais j'en parlerai quand on parlera du langage symbolique. Il y a des choses très justes dans les affirmations religieuses, mais d'un point de vue symbolique. d'un point de vue symbolique, hein, pas d'un point de vue factuel, voyez. Je prends simplement un exemple. La naissance virginale de Jésus. Bon, c'est impossible qu'une femme puisse engendrer sans avoir été fécondée. Bon, par un homme. Or, l'Évangile nous le dit bien, hein, l'Esprit Saint viendra sur toi, et bon, tu deviendras mère d'un fils qui sera appelé Emmanuel. Bon, ça c'est une prophétie d'Isaïe qui est reprise dans le texte évangélique. Alors, donc, c'est la parthénogenèse, c'est-à-dire le fait qu'une vierge puisse engendrer, est impossible, factuellement impossible, mais symboliquement c'est d'une extrême richesse, c'est d'une extrême richesse. Pourquoi? Parce que considérez la position du couple, Joseph et Marie, hein. Bon, quand Marie dit à Joseph, j'attends un enfant, Joseph est tenté de répudier Marie et de la renvoyer. Mais ensuite il dort et en songe, un ange lui dit, garde cet enfant auprès de toi. Donc cet enfant, il va le garder pour l'élever et l'adopter. Et ensuite il faut qu'il fasse confiance à Marie. Donc quand la compagne d'un homme lui dit, j'attends un enfant, il y a premièrement un acte de confiance qu'on est obligé de lui faire. Cet enfant est de toi, par exemple, parce qu'on n'a aucun moyen de le savoir. Hein. Maintenant, on me dirait, avec les tests génétiques, on peut le savoir, mais laissons-les où ils sont, ça c'est la barbarie scientifique. Hein. Premier acte de confiance, il faut faire confiance à sa femme quand elle nous dit qu'elle attend un enfant, à sa parole, voilà. Quand elle nous dit que cet enfant est de nous, nous sommes obligés de lui faire confiance. Et le reste, c'est de la barbarie scientifique ou biologique. Et deuxièmement, alors le plus important, c'est que le vrai père, c'est pas le géniteur, hein, c'est celui qui adopte l'enfant, hein, celui qui l'élève. Voilà, c'est ça le père. Hein. Le père selon la culture n'est pas le père selon la nature. Hein. La nature, c'est la biologie. Hein. Donc, c'est Joseph, à partir du moment où il décide de garder Jésus auprès de lui, et pour l'élever, c'est lui véritablement le père. Hein. C'est celui qui élève, qui adopte l'enfant. Et père, celui qui adopte l'enfant. Hein. Donc ça dit des choses très profondes sur la paternité, ça. Hein. Et ce n'est pas rien, hein, d'élever un enfant. Hein. Ça dure des années et des années. Hein. Il faut quelques secondes et parfois d'inconscience pour procréer, mais pour élever un enfant, ben, on en a au moins, on en prend jusqu'à 18 ans maintenant, vous voyez, bon, au moins. Hein. Donc cela n'est pas rien. Hein, c'est les pères de famille, disait Peggy, sont les héros du monde moderne. Non, mais voilà. Tenez, vous connaissez la trilogie de Pagnol. Hein, vous savez que lorsque Marius est parti sur la mer, hein, Fanny qui était enceinte, hein, elle allait devenir une fille mère. Hein, elle aurait été mise au banc de la société. Alors Panis décide d'épouser Fanny, vous voyez, et donc naît l'enfant. Et donc Panis est décrété son père en vertu de l'adage juridique is pater est quem nuptiae demonstrant, c'est-à-dire celui-là est le père que démontre le mariage. Le père, c'est celui que les noces ou le mariage désignent comme tel. Hein. Voilà. Alors après, dans la deuxième partie de la trilogie, Marius revient au voyage et veut récupérer son fils. Et il dit à César, mais je prends mon fils. César, qui pourtant est le père de Marius, donc il devrait être partial, eh bien non, il dit, tu n'as pas le droit de le prendre, hein, et cet enfant n'est pas à toi. Alors Marius dit, mais enfin, je lui ai donné la vie. Et César répond, non, cet enfant, tu ne lui as pas donné la vie, c'est lui qui te l'a prise, vous voyez, hein. Donc, les chiens aussi donnent la vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il suffit de rien, et de quelques secondes, et parfois d'inconscience pour donner la vie dans ce sens-là. Hein. Par contre, élever un enfant, être auprès de la mère quand elle accouche, ce qu'a fait Panis. Hein. Rappelez-vous la scène, donc Fanny avait sa main dans la main de Panis et elle enfonçait ses ongles justement dans cette main Et puis Panis garde encore la marque de ses ongles justement dans sa main. Et Fanny le dit bien à Marius, elle lui dit c'est Panis qui a cette marque, c'est pas toi Marius, puisque toi tu étais loin. Hein. Donc le père c'est celui-là. Alors à la fin c'est, Marius il dit mais alors d'une façon très triviale, alors le père est-ce que c'est celui qui donne la vie ou bien est-ce que c'est celui qui paie les biberons? Et César lui répond, le père, Marius, c'est celui qui aime, voyez. Donc là, on est dans la, effectivement dans le quelque chose de très juste, hein, et de très profond. Mais alors, vous voyez, c'est ça. Il faut interpréter ce récit, le récit évangélique, de façon symbolique, comme je viens de le faire, hein, et non pas de façon factuelle, parce que factuellement, c'est ridicule. Vous voyez le début de l'évangile de Matthieu, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra un tel engendra un tel, et puis un tel engendra Joseph, et puis on arrive à Jésus. Alors, c'est ridicule, parce que Joseph, de ce point de vue, c'est le premier mari trompé de l'histoire, si vous voulez. Hein. Bon, oui, mais enfin, ouais. Donc, si, alors, voyez-vous parler du XVIIIe siècle. Si on faisait du voltairianisme, Voltaire aurait ricané comme ça. Mais Voltaire, vous savez, il est comme les petits ruisseaux. Il n'est clair que parce qu'il n'est pas profond. Hein. Voilà. Il faut. Il est très brillant, Voltaire. J'aime beaucoup. Hein. Mais il n'a pas la profondeur. Hein. Parce que c'est facile de ricaner devant cette histoire de Marie enceinte du Saint-Esprit. Mais il faut au contraire observer les choses plus profondément. Mais non, moi je trouve que les lumières, il y a une superficialité qui manque de profondeur. Voilà, bon, c'est un truisme ce que je viens de dire, mais c'est on peut ricaner, hein, on ricane, on peut toujours ricaner de ces textes si on ne les interprète pas en profondeur. Ils font rire, mais ils ont quand même, me semble-t-il, du sens. Alors que le langage symbolique relève d'une certaine logique, qui n'est pas la même logique que la logique linéaire.
Oui, mais vous parlez du symbolisme que l'homme monte de toutes pièces. Lacan disait, je crois, que le symbole, l'homme est sous sa coupe, il décide pas de ce qui est de l'ordre du symbole. C'est le symbole qui mène l'homme et non pas l'homme qui mène le symbole. Or, dans les religions, le nazisme l'a fait aussi, hein, quand il réexploite la svastika, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, oui. Il manipule du symbole, mais ça, c'est pas véritablement le symbolisme. Le symbolisme, c'est quand Freud raconte cet homme qui tombe amoureux chaque fois lorsqu'une femme, il rencontre une femme qui a une robe rouge. Il est sous le coup du symbole. Pour moi, c'est ça le symbolique. C'est ce qui nous attrape, ce qui nous ravit et qui nous ravit dans les deux sens d'ailleurs.
Oui, alors là, c'est le paradoxe de la transcendance du langage que vous posez. C'est vrai que c'est moi qui parle, mais en moi, quand je dis des choses réfléchies, pas quand je dis passe-moi le sel ou comme ça, hein, bon. Mais mettons pour le poète, le créateur, l'écrivain, etc., chaque fois quand il parle, quelque chose de plus grand que lui en lui parle. Hein, bon, il sert les mots beaucoup plus qu'il ne s'en sert, si vous voulez. C'est ce que j'appelle la transcendance du langage. Mais ça, c'est difficile à percevoir. Quand on n'est pas dans l'usage utilitaire ou finalisé du langage, mais quand on est à l'écoute des mots. Victor Hugo a eu un très beau vers là-dessus, il dit « les mots sont les passants mystérieux de l'âme hein. ». C'est-à-dire que il y a des choses qui en nous viennent, et comme dans une espèce de Pentecôte laïque, vous savez que lors de la Pentecôte, dans la mythologie chrétienne, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres en forme de langue de feu. Eh bien, l'écrivain, il est visité par les mots, hein. Et il n'est pas dans une situation de maîtrise vis-à-vis d'eux, mais dans une situation d'écoute, hein. Et donc il y a une transcendance effectivement des mots par rapport à nous. Mais en même temps, les mots ne naissent que par notre bouche. Moi, en tant qu'agnostique, je ne peux pas dire, je ne crois pas à un Dieu extérieur transcendant, hein. Mais je dis que la seule transcendance à quoi peut penser un agnostique, comme Mallarmé, Valérie, etc., c'est celle du langage, hein. Il y a en nous quelque chose de plus grand que nous. Par exemple, quand on aime, hein, eh bien, le mot amour, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est plus que le petit être assez minable que l'on est, au fond, hein, cette existence qui est comme un chewing-gum, qui s'allonge comme ça, qui n'a pas de substance véritable, comme Sartre le dit dans La Nausée. Par contre, les mots, alors, les mots ont une... ils brillent comme des étoiles dans le ciel, en quelque sorte. Je ne suis pas toujours à la hauteur de mes mots, vous voyez, des mots que je prononce. Mais ça, c'est quelque chose d'un peu précis, un peu...
C'est pas exactement ça. Par exemple, moi, je pense que notre société, elle est sous l'emprise du symbole, mais inconsciemment, au point que quand on parle de marché financier, c'est quoi ? C'est le pouvoir de l'argent. Il en arrive à ne représenter plus que lui-même, hein, faire de l'argent pour de l'argent. C'est quoi ? C'est une valeur. L'argent est mis à la place de quoi ? Du soleil, de l'or. Hein ? Donc là, toute la société est sous le joug d'un symbole dont elle n'a même pas conscience qu'elle est menée par ce symbole. Le jour où elle arrive à nommer les choses, donc le langage sert aussi à déconstruire ce qui, du symbolique, nous mène par le bout du nez.
Oui, mais bon, tout dépend des valeurs. Bon, l'argent, il y a le thème de Midas, hein, qui rend... Tout ce qu'il touchait se transformait en or, et puis après il n'avait plus de quoi manger, parce que le moindre sandwich devenait de l'or, hein, donc ça se mange pas, vous voyez. Donc c'est pas un but. Quels sont les buts qui valent le coup? C'est pas le pouvoir. Le pouvoir, parce que le pouvoir on peut l'atteindre. Moi je pense que les seuls buts qui sont authentiques, c'est ceux qui sont inatteignables, hein, inatteignables. Le pouvoir, on peut l'avoir, hein. Le matériel des choses aussi, hein, on peut l'avoir, mais on peut pas, on peut acheter le corps de quelqu'un, mais on peut pas acheter son cœur, vous voyez, hein. Ça, c'est on bute là-dessus, hein. Je sais plus, je crois que c'est Arletty qui dit ça dans Les Enfants du Paradis. Aux pauvres, il faut bien leur laisser quelque chose, aux pauvres. Vous l'avez vu, Les Enfants du Paradis, peut-être, hein. Il faut bien leur laisser quelque chose, aux pauvres. C'est-à-dire que même avec tout l'argent du monde, vous pourrez acheter le corps de quelqu'un, mais vous n'achèterez pas son cœur, son sentiment, vous voyez. Donc, je crois que on est... Il y a, à propos des symboles, il faut faire le départ entre ce qu'on nous impose et qui sont des pseudo-valeurs, hein, et puis les seules valeurs... Alors, pour moi, c'est amour, création, hein. Création, désir, étoile, mais là je cite Zarathustra de Nietzsche, hein. Amour, création, désir, étoile, qu'est cela, et il cligne de l'œil, le dernier homme. Alors ça, c'est, il y a une description du dernier homme, hein, qui révère quoi? La santé. Voilà. Ça c'est le, alors aujourd'hui, la santé est mise au-dessus de tout, c'est pas une valeur essentielle, ça. Enfin, vous me direz, il faut la santé, d'accord. Mais il vaut mieux la joie de l'âme. Regardez comment, quand les Grecs se saluaient, ils se disaient kairé, c'est-à-dire réjouis-toi. Tandis que quand les Romains se saluaient, ils se disaient walé, c'est-à-dire porte-toi bien. Vous voyez la différence, hein? Vous voyez la différence entre une civilisation de l'esprit, qui était la Grèce, et une civilisation matérielle, qui est Rome. Parce que de Rome, qu'est-ce qu'il nous reste? Des aqueducs, des égouts, etc. Oui, mais c'est un aqueduc. Hein,
donc. Il y avait dans la Romaine, le seul pont qui est tenu, c'est le pont romain.
Oui, mais enfin, c'est pas ça, mais bon, les Juifs se souhaitent la paix, hein, shalom, les Arabes aussi, les musulmans aussi, salam, hein, bon, c'est bien, ça, de se souhaiter la paix, la joie aussi, Kairé. Mais la santé, bonne santé, porte-toi bien. Si, bien sûr, j'entends bien, mais ça n'a pas l'allure de se souhaiter la joie, quand même. Hein. C'est autre chose. Alors quand, je crois que c'est Joyce qui le dit dans Ulysse, quand un Hébreu allait quelque part, il disait « il fait bon être ici, bâtissons un temple à Yahvé hein. ». Et quand un Romain allait quelque part, il disait « il fait bon être ici, bâtissons un water closet ». Vous voyez hein. Voilà. Ça, c'est la civilisation romaine, c'est une civilisation du matériel. Connaissait les égouts, les thermes, les bains, voilà. Non, mais c'est pas une civilisation de l'âme. Alors que la civilisation grecque était plus une civilisation de l'âme. Ça fait beaucoup de
choses. Oui, donc pour rebondir sur votre histoire de barbarie dans les cités, et comme vous êtes très cinéphile, je prends moi le top 3 du cinéma en France. Le top 3, c'est quoi? C'est Bienvenue chez les Ch'tis, c'est La Grande Vadrouille et c'est Intouchable. C'est trois films qui résistent par le rire. Et dans les trois films, vous avez du lien social. Que ce soit La Grande Vadrouille, Les Intouchables ou Bienvenue chez les Ch'tis, il y a du lien entre les hommes. Et c'est ça, et par le rire. Et c'est ça qui arrive à... Donc je ne serais pas aussi pessimiste que vous là-dessus. Ça, c'est une première chose. En plus, vous parliez de la santé dans Intouchable. Là, ça devient une caricature. Puisque le type, il peut bouger que la tête. Et pourtant, il arrive à l'amour à la fin du film. Tout à l'heure, vous citiez aussi une phrase de Cassirer. Sur les symboles et sur la chair, je crois que c'était vivre par les symboles ou mourir par la chair, et simplement faire un petit lien avec le tableau de Courbet, l'origine du monde. L'origine du monde, au départ, c'est Khalil Bey qui l'avait commandé, un arabe, et c'était pas un tableau, c'était un diptyque en fait, parce que il était dans une boîte, et la boîte, c'était donc un tableau caché par un autre tableau. Et le tableau qui était devant, c'était un petit paysage avec une église. C'est assez amusant. Et derrière l'église, vous avez l'origine du monde. Donc là, il faut prendre le tableau dans son entier, c'est-à-dire avec la petite boîte et ce qui cache. C'est un tableau qui est dans un musée à Budapest, je crois. L'autre Courbet, c'est un tableau de Courbet aussi, hein, les deux. Voilà.
Oui, alors bon, moi je n'ai pas vu Intouchable, hein, exprès, parce que bon, j'ai eu peur que ça soit trop angélique. Hein, peut-être j'ai eu tort, je l'ai pas vu. Par contre, sur le lien social, j'ai vu Les Neiges du Kilimandjaro. Vous l'avez vu peut-être, hein? Oui. Alors ça m'a plu beaucoup parce que ce n'est pas angélique. Je n'aime pas ce qui est angélique. Hein. Angélique, c'est on est un monde de bisounours, quoi. Hein, voilà, hein, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, etc. Ça j'aime pas parce que ça manque de lucidité. Hein. C'est pas non. J'ai pas vu moi. J'ai eu peur que ça le soit.
Si vous prenez ces trois films, ça fait 60 millions de spectateurs.
Oui, mais ça veut rien dire, ça. Ah non, là je suis pas d'accord sur le nombre. Le nombre, non, être optimiste, oui, mais le nombre ne signifie rien. Mais alors, par contre, dans Les Neiges du Kilimandjaro, on voit bien, justement, que le vrai lien social. Alors, vous savez que c'est à partir d'une pièce, d'un poème de Victor Hugo, hein, qui s'appelle Les pauvres gens, qui se trouve dans La Légende des siècles de Victor Hugo. y a une grande lucidité sur, par exemple, comment ceux qui sont en de difficultés économiques peuvent être délinquants, vous voyez, hein, tout ça. Absolument, oui. Donc, en général, je pense qu'on pourra conclure là-dessus. La nature humaine, il ne faut pas se faire de la nature humaine une vision paradisiaque. Qui veut faire l'ange fait la bête, c'est Pascal qui le dit. Hein. Donc, tout film, toute œuvre qui fait l'impasse sur le démonique, sur la négativité, sur le destinal de la vie, vous voyez, sur le négatif, c'est quelque chose qui me semble problématique. D'ailleurs, on parlait de cinéma, moi j'aime bien les films d'horreur, et très souvent ils commencent dans une atmosphère érénique, c'est-à-dire apaisée. Irénée, c'est le pacifié, c'est la paix, Irénée en grec, Irène, hein, irénique. Alors vous avez belle pelouse, vous avez une belle maison, etc. Donc un mode de vie modéré et chantant, comme dit Duras, moderato cantabile. Hein. Et alors après, l'horreur intervient, massacre à la tronçonneuse, etc. Mais les premiers plans, c'est toujours quelque chose de pacifié. Alors comme je dis toujours, puisque j'aime me jouer sur les mots, pacifier. Il ne faut pas s'y fier, hein. Il ne faut pas s'y fier. Il faut savoir que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, voyez. Harold Pinter disait, ce qui me fait le plus peur, c'est une tondeuse à gazon sur une pelouse. Alors, vous me direz, mais pourquoi? C'est pas parce qu'elle va se transformer en monstre, etc. Non, mais c'est le mode de vie petit bourgeois qu'il y a, hein. Chacun tend sa pelouse le samedi après-midi, vous voyez. Et c'est ça qui est effrayant, hein. Parce que il y a une impasse faite sur le reste, sur le démoniaque, hein, de la vie. Donc, il faut, je crois, savoir réserver les deux côtés. Alors voilà, Elisabeth, il faut maintenant fixer la prochaine, puisque vous représentez Marie-Jo. Normalement, c'est le deuxième. Voilà, deuxième vendredi de mars. Alors. Je vous remercie d'être venu malgré ce froid et ça m'a fait très plaisir et c'était très stimulant. Encore une fois, merci.